Redécouvrir Hélène Pedneaux. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneaux, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Première série, Les carnets du lac. Premier épisode. Prologue. Le 9 novembre 1989, très précisément, ma double vie collective et personnelle a basculé. En plein cœur de Berlin, de chaque côté des deux Allemagnes, des milliers de citoyens et de citoyennes dont la rage et l'humiliation venaient de faire éclater la peur paralysante en un immense alléluia païen, faisaient tomber le mur de la honte après 28 ans d'absence de soleil. Pierre après pierre, ils défirent cette longue et hideuse boursouflure qui cassait le monde en deux et en eux. Ce même jour, en plein cœur du plateau Mont-Royal, à Montréal, Québec, je rentrais chez moi rue Christophe Colomb. C'était un novembre très froid, il devait être autour de 22 heures. Qu'avais-je fait ce soir-là, nuit de liesse à Berlin? Je ne me rappelle plus. Mais je me souviens que j'avais encore mon manteau sur le dos quand je tournais distraitement les pages du journal Voir, qui traînait sur la table, m'arrêtant à la rubrique 004 des petites annonces, chalet à louer. Journal essentiellement urbain, il n'y avait jamais grand-chose sous cette rubrique. Mais ce soir-là, je la consultais. Pourquoi ? Tant de gestes en apparence anodins ou banals nous sauvent dans une vie parfois sans même qu'on les remarque. Ces petits gestes, on les dit irréfléchis, machinaux ou instinctifs, dictés par le hasard. Nous n'avons de cesse de leur accoler des mots qui en diminuent l'importance et la portée, parce que nous ne comprenons pas ou n'admettons pas que nous sommes souvent plus intelligents de l'instinct que de la raison. Il y avait deux annonces de chalet, jour faste. Dans l'une disait Bord-Lac Saint-Sébastien, Saint-Zénon, très beau site, chalet équipé, spacieux, foyer, trois chambres, saison hiver, $350 par mois. Suivi d'un numéro de téléphone à Montréal, et même probablement dans mon quartier, au vu des trois premiers chiffres. C'est où ça, Saint-Zénon ? Je ne me doutais pas alors que je me posais mentalement la question qui me serait posée le plus souvent au cours des 10 années suivantes, exactement sous cette forme, c'est où ça Saint-Zénon ? Il était trop tard pour vérifier, je remis l'appel au lendemain matin, jour de départ pour Paris.
Donc on est parti à Tadoussac en passant par Québec, et là on a pris un bateau. Et ça doit être même pas début septembre, le temps qu'on arrive. Et je n'avais jamais réalisé que la découverte de la maison était si proche. Parce que ce jour-là, sur le bateau, j'ai toujours raconté, je lui ai dit à elle, beaucoup en riant, que j'avais l'impression de lui voir des arbres pousser des oreilles. Tellement elle était sur le pont du bateau. Et elle respirait tout ça, et j'ai vraiment compris que son projet de partir était sérieux.
D'où est-ce que j'arrivais ce soir-là ? La question m'obsède. Je monte chercher mon agenda de 1989. Je n'ai jamais pu utiliser un agenda comme du monde. Il me sert en fait de journal où je note en abrégé après coup rendez-vous et événements de ma vie. Mon véritable agenda quotidien est écrit sur des post-it collés sur mon paquet de cigarettes de la journée quand il n'est pas directement écrit sur le rabat intérieur du paquet. Mon agenda de 1989 est noir, étroit et long, à couverture rigide, enjolivé de quatre coins de renforcement en or où on ne voit rien d'autre que l'année 1989, en haut à droite, gravé en lettres dorées. J'ai rarement eu dans ma vie un agenda aussi minuscule. Je l'ouvre. Papier trop mince, où l'encre des stylo-feutres avec le temps a traversé les pages en transparence. Impression de confusion, accentuée par l'espace accordé à chaque jour, trop petit, pour des jours trop remplis. Tout ce qui est inscrit est tassé, bousculé, une vie sans dessus-dessous. 9 novembre. Trois jours avant, c'était le lancement de mon livre sur Clémence. Tout me revient d'un seul coup. Je revenais du salon mortuaire. La veille, Pierrette était morte à 40 ans. C'était une grande femme, très belle, costaude, la meilleure amie de Marie-Claire. Une semaine avant, j'avais écrit un ange en exil pour elle, qui était sur le point de traverser les apparences, sur une somptueuse musique de Marie-Claire. Le 9 novembre, j'ai déjeuné avec Suzanne, puis j'ai passé l'après-midi en studio avec Marie-Claire, qui était en train d'enregistrer son disque « Une femme, une planète ». À 17h, je suis allée au bar Les Bouffons, au lancement de l'agenda des éditions du Remue-Ménage, dans lequel j'avais un texte pour les 50 ans du droit de vote des femmes qu'on célébrait en 1990. Et à 19h, je suis passée au salon mortuaire dire au revoir à Pierrette. Vers 23h, Geneviève est arrivée à l'improviste. Elle était en train d'écrire une chanson difficile et lumineuse qu'elle appelait « La seconde fragile ». Elle ne l'a jamais chantée encore ni sur disque ni sur scène. Elle est repartie à 3h du matin, deux nocturnes en perdition. C'est ce même soir que j'ai trouvé la maison que j'habite aujourd'hui et que j'ai appris la chute du mur de Berlin au téléjournal. Je n'en fais aucunement mention dans mon agenda. Le lendemain matin, à la première heure, j'ai téléphoné au numéro indiqué dans le Voir et je n'ai eu qu'à traverser la ruelle pour me rendre chez le jeune couple qui m'offrait leur chalet à louer. Ils habitaient au même numéro que moi, dans la rue d'à côté. Dans mon agenda, il est inscrit, au 10 novembre, 14h, vais voir une fille pour maison de campagne. Plutôt laconique. Il vaut mieux me souvenir par moi-même du reste de la scène. La jeune femme a sorti un gros album de photos remplies à ras-bord des quatre saisons à Saint-Zénon. Avant même de les voir, je savais que je devais m'en aller là. Là et pas ailleurs. La mémoire est un étrange panier où tout semble parfois se court-circuiter et même se contredire. Apparemment, nos souvenirs s'échangent des pages de notre histoire entre eux à notre insu. La mémoire réarrange les faits et les événements à son gré, dans une sorte d'impulsion créatrice, ludique ou pragmatique, selon les tempéraments. Au bout du compte, on se ramasse avec un véritable fouillis qui porte souvent de dures estocades à la vérité historique. Le 18 février dernier, j'ai téléphoné au journal Voir pour vérifier si le souvenir du jour où j'avais fait la découverte de ma maison, avant l'aide de mon agenda, était exact. Esther, l'incroyable réceptionniste qui me reconnaît toujours comme si j'appelais 10 fois par jour et non une fois par année, est allée fouiller dans les archives du journal. Elle m'a rappelé peu de temps après pour me confirmer que l'annonce était bien parue dans le Voir du 9 au 15 novembre 1989, que oui, il n'y en avait que deux dans la rubrique 004, et elle m'a donné le libellé exact de celle qui m'intéressait. Le 18 octobre 1989, j'avais consulté une voyante pour la première fois de ma vie. À peine étais-je assise devant elle, alors que je n'avais pas encore eu le temps d'ouvrir la bouche, elle s'était exclamée « Ah, vous vous en allez en campagne, au bord de l'eau. C'est la meilleure décision que vous aurez prise de votre vie. Pour la première fois, vous allez faire des racines quelque part. » J'étais sidérée. Je n'avais parlé à personne de mon projet, sauf à Geneviève et à Marie-Claude. Je visitais des maisons et je contactais des agents d'immeubles en cachette, uniquement en Estrie, où plusieurs de mes amis étaient déjà installés. 4 jours avant le 9 novembre, selon mon agenda, j'en avais visité une aussi loin qu'à Disraeli. Avec le recul, je semble avoir été vraiment résolue, acharnée, devrais-je dire, à quitter Montréal et vite. Comme si j'avais voulu sauver ma peau devant un obscur danger qui n'avait même pas de nom. Je crois que je désirais alors vivre dans l'isolement total pour bénéficier de la puissante fécondité de la solitude, comme l'a si justement écrit André Ferretti. Mais en Estrie, la moindre cabane en bois rond, même pas isolée pour l'hiver au bord d'un lac, quasiment sans eau et sans électricité, se négociait autour de 90 000 $. Tous les agents d'immeubles m'avaient averti, mais je ne les croyais pas, pas encore. Quand je demandais à la voyante si ma nouvelle maison serait en Estrie, elle me répondit, en fermant les yeux pour se brancher à son réseau de communication sans fil apparent, « Non, on me dit de vous dire Joliette. » Joliette. Je savais exactement 2 choses à propos de cette ville. C'était l'un des repères des Hells Angels et c'était aussi le comté de Guy Chevrette, les 2 choses n'étant pas nécessairement reliées, député péquiste alors dans l'opposition. L'ancien comté du vieux bleu Roch La Salle. Comment ça, Joliette ? Cause toujours mon lapin, lançais-je intérieurement à la voyante en espérant qu'elle n'entende pas, bien décidée à trouver une maison en Estrie. Mais quand j'ai demandé à la propriétaire du chalet « C'est où ça, Saint-Zénon ?» et qu'elle m'a répondu « C'est au nord de Joliette », j'ai entendu la voyante ricaner dans mes oreilles. Je partais à Paris le soir du 10 novembre. Que faire ? Je ne pouvais tout de même pas laisser passer cette occasion puisque ce lieu, ce lac et cette maison étaient mon chez-moi, hors de tout doute. Je persuadais les propriétaires de me réserver la maison jusqu'à mon retour 10 jours plus tard. Pendant ce temps, Geneviève et Marie-Claude iraient explorer l'endroit à ma place. Après leur visite à Saint-Zénon, je téléphonais à Geneviève de Paris. Elle me dit à peu près ceci sur un ton à la fois découragé et rassurant. Cette amie maîtrise à un très haut niveau l'art du paradoxe eau où moi-même je coule à pic. Jamais dans 100 ans je n'irai rester dans un lieu aussi reculé et sauvage, mais toi, tu vas adorer ça, c'est exactement ce que tu cherches. Les vrais amis savent se mettre à notre place, tout à fait gratuitement, même si pour rien au monde, elles ne voudraient être dans notre peau. Le 18 novembre, à mon retour de Paris, je suis allée à Saint-Zénon avec Francesco, professeur de physique à temps plein et magicien à temps partiel, qui connaît intimement les maisons. De fines plaques de glace flottaient déjà sur le lac. Francesco m'a dit « Elle est bâtie tout croche avec des matériaux recyclés, mais c'est une bonne maison. À ta place, j'achèterai. » Heureux diagnostic, puisque j'étais déjà tombée amoureuse de la maison au bord du lac au premier coup d'œil. En revenant, j'ai convaincu les propriétaires de me la vendre au lieu de me la louer. En fait, ils n'ont pas pu résister à la force du destin. Ils ont senti tellement fort que c'était ma maison à moi qu'ils ont accepté de me la vendre alors que ce n'était pas du tout leur intention. Je n'ai même pas eu besoin d'insister. Le destin avait parlé à ma place. C'est alors que je fis la connaissance de Saint-Sébastien. C'était il y a 10 ans.
Hélène Pénaud, chez la plus grande mère nourricière de notre culture. L'amour qu'il y avait dans cette femme-là pour son peuple, sa culture, ce qu'elle nous a fait connaître.
J'ai retrouvé à Saint-Zénon le climat de mon enfance au Saguenay. Les mêmes montagnes, la même végétation, la même belle neige abondante si blanche qu'elle en paraît bleue, les mêmes mouches noires en congrès perpétuel, le même soleil cru, les mêmes vents, la même profusion de lacs et de rivières reliés en réseaux tellement serrés que la terre y a moins d'importance qu'ailleurs. Je suis arrivée là comme si j'y avais été depuis toujours. Nul besoin de tant d'adaptation. Hier, j'étais à Montréal depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'étais ici depuis 24 heures. C'était la même durée. J'étais passée de l'hystérie au silence, le temps d'un déménagement en pleine tempête de neige, un 2 décembre, 4 jours avant la tuerie de Polytechnique. Saint-Sébastien était gelé, j'ai dû attendre jusqu'au mois de mai pour le connaître en eau. D'autant plus que ce mois de décembre n'avait pas l'air d'être au courant qu'il y avait tout un éventail de températures hivernales possibles, autres que moins 40 degrés Celsius. 1er mai 1990. Après une dernière phase de glace en suspens, fine et transparente, qui dure une partie de la journée, Saint-Sébastien me montre enfin ses belles eaux noires de lac du Nord en fin d'après-midi. Un couple de huards, traditionnel comité d'accueil des eaux libérées, y flotte tranquillement, comme si l'hiver n'avait jamais existé. Aucun souvenir, aucune trace de la glace. Le temps se fige au présent. Je m'y installe. Le présent est un cadeau. J'allais revivre cette scène bouleversante de l'arrivée des huards chaque 1er mai ou autour, 9 fois encore jusqu'à aujourd'hui. Et il m'est impossible de m'en lasser.
Une affaire que je revenais pas d'elle, c'est quand elle aimait quelque chose, elle doutait jamais qu'elle aimait quelque chose. Puis ça, là-dessus, pour moi, c'était une leçon. De dire, attends pas la permission à personne, non.
Nous nous sommes apprivoisés, lui et moi, pendant quelques saisons avant que je m'aventure dans l'exercice périlleux de la traduction. Je parle de lui au masculin, mais un lac, est-ce vraiment masculin ? Première difficulté de la traduction, qui soulevait de sérieux problèmes d'accord de participe passé. D'abord et avant tout, le mot « eau » est féminin. Mais dans ma langue, on passe apparemment sans raison du masculin au féminin pour décrire les différentes formes de l'eau. Une goutte, un ru. Une pluie, un étang, une ondée, un ruisseau, une rosée, un lac, une rivière, un orage, une chute, un fleuve, une mer, un océan. Pourquoi ? Qui en a décidé ainsi aux origines de la langue française ? Qui, selon quel impératif mystérieux, a déterminé le genre des mots ? Le masculin et le féminin se sont-ils partagés le vocabulaire comme un territoire au terme d'une guerre ? Devais-je dire « il » ou « elle » en parlant de mon lac ? D'autant plus qu'il portait un nom ridicule qu'il n'avait pas choisi, peu approprié pour nommer un lac, qui rappelait la mémoire d'un saint martyr passablement amoché par un tir nourri de flèches. Jean-Jacques, un ami très dévoué et particulièrement subtil, m'a d'ailleurs fourni des tas d'images sanglantes du saint, puisées dans la délirante imagerie catholique quand il a su où je m'en allais. En français, un lac, c'est bel et bien masculin, mais en symbolique. Dans toutes les civilisations répertoriées, l'eau est une valeur féminine. Mon dictionnaire des symboles est formel. La symbolique devrait au moins avoir son mot à dire dans cette histoire et parler aussi fort que n'importe quelle langue. Quand on écrit, on peut se permettre quelques licences, mais il y a des limites à bousculer la langue si on veut se faire comprendre. Alors, pour respecter le code de la langue française, j'ai dû me résoudre à parler de mon lac au masculin. Autre sérieuse embûche que j'ai dû contourner sans trouver d'autre solution, le « moi-je » n'existe pas dans les réflexions des lacs. La traduction exacte du pronom mi-singulier, mi-pluriel qu'ils utilisent pour parler d'eux serait « je-nous », option qui m'aurait causé de constants problèmes d'accord de verbe. J'ai dû garder « moi » et « je ». Ce « je-nous », en outre, ne correspond absolument pas au « nous » singulier de majesté ou de modestie, jadis utilisé par les rois, les reines et les évêques. Élisabeth d'Angleterre l'utilise encore, ainsi que les chefs d'État, les dictateurs, les prélats, les universitaires et autres hautes gommes. Quant au « nous », employé dans la langue française au sens pluriel, collectif, il est tombé sur un us. Depuis une vingtaine d'années, il a basculé dans les archaïsmes. Si je voulais l'employer, je risquerais la risée et même la radiation de l'ordre des traducteurs. Alors va pour le « moi » et le « je ». Écrire est une défaite perpétuelle. Le piètre résultat d'une infinie série de compromis qui rabaisse au ras des pâquerettes, dans l'étouffoir de codes stricts, la haute voltige qu'on rêve de faire avec les phrases et les mots dans la plus absolue liberté. S'il y a pire que cette subtile torture, c'est certainement traduire. Au début de 1993, un coup de fil de la revue Le Sabord, splendide revue d'art visuel et de littérature née aux Trois-Rivières, ville natale de Pauline et de Gérald, m'a donné l'occasion d'écouler les traductions sur lesquelles je travaillais depuis 4 ans, dans le plus grand secret, de peur qu'on ne me juge un peu givrée, même en été. Mes conversations avec Saint-Sébastien m'ont plongé au cœur de l'extrême difficulté de se mettre à la place de l'autre, même si, avec un lac, les rapports se tissent au-delà des différences de couleur, de culture, de caste et de langue que nous vivons âprement parfois entre gens pourtant de même espèce. Nous sommes, lui et moi, dans une dimension inconnue, entre deux règnes qui cohabitent habituellement sans possibilité de se connaître intimement à cause des distances infranchissables entre nos natures. Je ne sais pas si le mot « cohabiter » est judicieux pour parler de notre histoire commune. Dans l'ordre de la création, l'eau est apparue la première. Mais depuis le grand débarquement de l'être humain sur Terre, dernière créature arrivée, j'ai failli écrire « dernière calamité », notre règne domine le sien, souvent sans égard et sans tendresse. Les derniers seront les premiers, avons-nous trouvé pour nous justifier. Et pourtant, sans eau, nous ne vivrions pas. Mais sans nous, les eaux vivraient très bien, probablement mieux. Par exemple, la plupart des oiseaux s'envolent et la plupart des animaux s'enfuient quand nous les approchons. Ils croient que nous sommes des barbares. C'est exact. Si les arbres, les rochers et les lacs en avaient la capacité, ils s'enfuiraient aussi, n'en doutons pas. Avec raison. Mon lac et moi, chacun dans notre nature, nous avons franchi le Rubicon, transgressé des frontières jusqu'alors infranchies, qu'on me passe ce néologisme. En avions-nous le droit ? Était-ce contre nature ? Que fallait-il abandonner de nos natures respectives pour rejoindre l'autre dans un champ de communication inconnu, inexploré ? De mon côté, il m'a fallu dépenser, ce qui ne m'a rien coûté d'autre qu'une entière disposition à l'étonnement. J'ai été choyée. Saint-Sébastien m'a donné accès à une sorte de morale de l'eau. J'appelle morale ce qui éveille, comme l'écrit Thomas Mann. Il m'a appris des choses sur moi, exactement comme dans toute rencontre avec un ou une autre de même espèce. Et peut-être plus encore qu'à l'intérieur de mon espèce, parce que mon lac ne sait pas faire de mal. Le mal qu'on se fait, entre humains, parfois même sans le vouloir, bloque le canal de la connaissance de soi et des autres. Il fait de l'obstruction de conscience. Il provoque un arrêt sur l'image qui fait sauter quelques coches vitales et fige l'évolution pour un moment ou pour longtemps, selon la gravité du mal. Comme les vieux films d'Abbott et Costello que mon père nous passait dans la cave les dimanches après-midi de pluie avec son vieux projecteur. Jamais je n'ai censuré mon lac quand il me réfléchissait. J'ai essayé de traduire fidèlement ses propos, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Mais parfois, exactement de la même façon que tout le monde, toutes espèces confondues, il interprète de travers ce qu'il absorbe. C'est le risque de toute réflexion. Parfois, il saisit mal ce qu'il reçoit ou perçoit, comme un animal peut mal décoder la peur chez un être humain et la prendre pour de l'agressivité, ce qui l'incite à attaquer. Les apparences, les mirages et les illusions sont à s'y méprendre. On aurait pourtant juré.
Parce que c'était une femme tellement engagée que quand tu bâtissais des liens personnels avec elle, ça t'amenait vers une cause, ça t'amenait vers quelque chose. Pour certaines, ça a été le féminisme, pour d'autres, ça a été l'environnement, pour d'autres, ça a été la littérature ou l'éducation ou l'indépendance. Mais c'était pas une femme avec qui tu pouvais dire « c'est une amie, puis on se parle de nos affaires de cœur ». Ça arrête là. Tu sais, ça débouchait toujours sur l'engagement. Et l'engagement débouchait toujours sur des liens interpersonnels. Elle était vraiment le noyau qui liait ces deux aspects d'elle-même, mais c'était aussi le type de relation qu'elle bâtissait avec les gens.
Une dernière chose. Les phrases en italique qu'on trouvera ici et là dans le texte sont tirées telles quelles ou presque des livres que je lisais pendant mon travail de traduction. Pour en connaître les véritables auteurs, il faut aller à la toute fin, après l'épilogue. C'est en trouvant ces phrases d'autres auteurs un peu partout dans ses réflexions que j'ai su comment Saint-Sébastien savait autant de choses sur l'espèce humaine. Je crois que l'eau pense avec ses molécules. Elle absorbe les nôtres quand nous plongeons en elle ou quand elle nous réfléchit et, par le fait même, elle absorbe en partie ce que nous sommes et ce que nous savons, exactement comme nous absorbons les images, les phrases entendues et les univers des livres dans lesquels nous plongeons. Tout comprendre n'est pas seulement tout pardonner, c'est s'identifier complètement par l'esprit et par le corps. Ça y est. Voilà maintenant que je fais comme Saint-Sébastien. Il m'est venu tout naturellement cette phrase de Ruth Rendell, directement de mon cerveau au clavier, dissimulée dans le souffle de ma propre écriture. Comment affirmer qu'on est quelqu'un de précis et pas quelqu'un d'autre, au cœur d'un tel bombardement permanent? Je ne peux avancer que je ne suis, au fond, que ce que j'absorbe. Exactement comme mon lac. Hélène Pedneau, janvier-février 2000. Note de bas de page, je me rends compte à ma grande honte que je ne cesse d'écrire « mon lac » comme s'il m'appartenait, qu'il me pardonne cet accès indu de possessivité bien trop humaine. Vous venez d'entendre un morceau des Carnets du lac de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Nadia Ringard, Paul Pelletier et Lorraine Pagé. Redécouvrir Hélène Pedneau. Une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.